Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polothèque
et préparée par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Emmanuelle Polak, historienne, à l'occasion de deux événements auxquels vous avez apporté votre concours scientifique. La sortie en février dernier chez Casterman de l'album de bande dessinée consacré à Mila Racine, le quatrième d'une série sur quatre femmes résistantes, ainsi qu'une exposition intitulée également « Femmes en résistance » et qui est présentée au Mémorial de la Shoah à Paris jusqu'au 30 septembre 2016. Dans les deux cas, il s'agit de saluer l'apport des femmes dans l'ensemble des mouvements de la résistance, juives et non-juives, et de suivre le parcours de quelques-unes d'entre elles, en l'occurrence quatre dans cette série de bandes dessinées publiées chez Casterman, quatre femmes, Amy Johnson, Sophie Scholl, Bertie Albrecht et Mila Racine. Mila Racine, l'une des responsables du mouvement de la jeunesse sioniste, qui a sauvé la vie de 236 enfants juifs et pour laquelle une plaque a été apposée le jeudi 17 mars 2016 au 97 rue de Rome, son dernier domicile parisien. Tout d'abord, Emmanuelle Polak, j'aimerais qu'on revienne avec vous sur... comment est venue cette idée de faire cette série d'albums? Quel était votre but au départ?
Alors, mon but est bien sûr le suivant. Il s'agit de faire connaître l'action de ces femmes. Tout d'abord, le constat dans l'historiographie traditionnelle du peu de place laissée aux femmes et aux femmes qui ont apporté leur sentiments, leur énergie et tout leur courage au sein de la résistance. On le sait, le gouvernement provisoire va leur donner le droit de vote en 1944, compte tenu de leur participation à la résistance. Mais je trouvais, et ce n'est pas moi qui fais ce constat, hein, c'est des grandes historiennes bien avant moi, notamment Michel Perrault, qui notifient que leur place dans l'historiographie traditionnelle a été véritablement retardée ou décrite avec un peu de retard. La résistance est une histoire qui est d'abord écrite par des militaires. Ce sont des hommes qui vont tout d'abord s'intéresser aux faits glorieux, aux faits militaires. Et il faut attendre un petit peu, moi je pense que c'est au milieu des années 1980, pour qu'on s'intéresse à la résistance civile et qu'on s'aperçoive que ce sont les femmes qui vont être à la fois des messagères, à la fois des personnes qui vont falsifier des cartes d'identité, qui vont falsifier les bons de rationnement, qui vont cacher des familles, qui vont être convoyeuses, comme c'est le cas pour Mila Racine. Donc il faut vraiment tout d'abord s'intéresser à la résistance civile pour s'apercevoir de la part énorme du rôle des femmes dans la résistance.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous donnez des chiffres absolument édifiants. Si elles étaient donc, comme vous le disiez, peu nombreuses dans le maquis, elles étaient très présentes dans les réseaux, jusqu'à 41% dans le réseau Ali France. C'est une reconnaissance, effectivement, qui n'est absolument pas proportionnelle.
Non. Mais si on reprend le nombre de compagnons de la Libération, seules 6 femmes ont été honorées sur environ 1000 résistants. Donc voilà, je pense que c'était vraiment de ma part dans ce médium qui marche très bien auprès des jeunes, qui est la bande dessinée. Je veux rappeler qu'il y a fort fort longtemps, j'ai pu enseigner l'histoire-géographie, notamment à l'Ort, à Villiers-le-Bel, et à ce titre, je serais si heureuse aujourd'hui d'avoir à disposition ce médium pour pouvoir étudier l'histoire à travers le visage de ces femmes, à travers leurs actions. Je me suis aussi aperçue qu'il y avait des territoires perdus de la République dans lesquels il était excessivement difficile pour des professeurs d'histoire d'exercer leur métier sans que des amalgames viennent s'agglomérer à ces faits. Et j'ai pensé à mes collègues d'histoire-géographie en leur proposant, avec ces instruments extraordinaires qui sont composés de 56 planches de bande dessinée, où, mine de rien, nous mettons entre les mains des enfants un objet que l'on souhaite ludique, agréable, qui raconte une histoire. Mais nous avons beaucoup, beaucoup travaillé sur le fait historique et nous avons veillé à ce que chaque date soit bien sûr vérifiée, à ce que le contexte soit tout à fait approprié. Et en allant même un peu plus loin, en travaillant sur les décors, en travaillant sur les automobiles de l'époque, sur les bus de l'époque, sur les vêtements portés par ces femmes, eh bien nous avons voulu offrir un produit de haute qualité afin qu'il puisse servir, on l'espère, de référence. Et puis, je dois dire que ces bandes dessinées, et je remercie les éditions Casterman de m'avoir suivie dans ce sens, sont complétées toujours d'un dossier documentaire. Ce dossier documentaire est, si l'élève, le jeune, le moins jeune, puisqu'on dit que la bande dessinée est pour 7 à 77 ans, a la volonté d'aller un petit peu plus loin, il a toujours le loisir de se plonger dans le dossier historique dont je me régale à écrire à la fin de ces bandes dessinées pour pouvoir aller un petit peu plus loin.
En l'occurrence, c'est vous qui avez choisi ces quatre femmes comme sujet. Comment vous avez procédé? L'idée, c'était qu'elles symbolisent chacune un aspect de la résistance?
Non, nous souhaitions entrevoir la guerre à travers le visage de plusieurs femmes. Donc l'idée nous est venue immédiatement, lorsque j'ai proposé cette série aux éditions Casterman, de travailler tout d'abord sur une Anglaise, puisque une fois l'armistice signé, la bataille se propage dans le ciel d'Angleterre, et la bataille d'Angleterre. Et donc il m'importait de travailler sur l'action méritante de Amy Johnson, qui est une icône au Royaume-Uni, absolument peu connue en France. Elle est un as de l'aviation dans les années 30, puisqu'elle va relier le Royaume-Uni à l'Australie à travers un raid qui va durer une quinzaine de jours à bord d'un Tiger Moth, un petit coucou qui vole à très peu d'altitude, et elle ne va pas battre le record de Bert Hinkler, mais puisque c'est une femme et qu'en si peu de jours elle a pu relier l'Angleterre à l'Australie, elle devient une grande héroïne. Et cette as de l'aviation, lorsque la guerre a été déclarée, a souhaité mettre son expérience au profit de son patriotisme. Or, la Royal Air Force n'a jamais accepté que des femmes volent au sein de leur Spitfire et participent à la bataille d'Angleterre. Donc, elle n'a pu être, et ça a été le grand désespoir de sa vie, elle n'a pu être que convoyeuse d'avions. Donc, elle sortait les avions des usines et les convoyait jusqu'au front afin que les hommes puissent aller combattre dans les airs. Néanmoins, c'était une mission excessivement dangereuse puisqu'Amy Johnson a perdu la vie lors d'un vol en janvier 1941 dans des conditions excessivement mystérieuses. Puis nous avons déplacé le débat en Allemagne. C'était très important de voir comment les Allemandes ont pu vivre de leur côté. Il y a là encore des icônes de la résistance des jeunes. Et à travers le portrait de la fratrie Scholl, et plus particulièrement de la petite sœur, Dans Scholl, Sophie Scholl, qui est encore là encore très très connue en Allemagne, qui est vraiment la première résistance des jeunes et la résistance de cette jeune fille qui va perdre la vie à 22 ans. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que je raconte cette histoire parce que je me souviens d'avoir lu des documents sur lesquels on mentionnait la dernière entrevue des parents avec leurs deux enfants. Les enfants ont fait des tracts, essayent de réveiller les consciences des étudiants de l'université de Munich et ils se font dénoncer par le concierge. Ils vont avoir un procès d'opérette et à la fin de ce procès, ils vont être condamnés à la guillotine tous les deux. Il y a une entrevue avec les parents et c'est toujours voilà, un moment très 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 d'émotion puisque ses parents vont perdre deux de leurs enfants dans cette résistance. Il m'importait de rappeler aux jeunes, là encore, qu'il y avait une résistance en Allemagne très tôt et que c'était à l'initiative de jeunes personnes. Voilà. Et puis, concernant la France, eh bien, la personnalité de Bertie Albrecht et notamment l'ouvrage magnifique de Dominique Messica, avec qui j'ai eu la chance de travailler sur ce troisième opus, nous a permis de remettre les horloges,
les pendules
à l'heure, oui, voilà, puisque Bertie Albrecht a souvent été considérée comme la secrétaire d'Henri Freinet. Or, non, elle n'est pas la secrétaire d'Henri Freinet, elle est véritablement la cofondatrice du mouvement Combat. Et la vie et la liberté liberté, l'extrême liberté de Bertolt Brecht, on l'a encore beaucoup touché, puisque d'un milieu bourgeois, issu d'un milieu bourgeois et ayant fait ce qu'on appelle à l'époque un beau mariage avec un banquier hollandais, mais qui vit à la City, à Londres, elle aurait pu tout à fait se satisfaire de cette vie très confortable, et elle va renoncer par respect et fidélité à son idéologie et à ses idées, à ce confort. Elle va venir en France, elle va se battre très très vite, elle va monter des mouvements de solidarité, elle va œuvrer pour ce qu'on appelle maintenant le planning familial, pour avoir la pleine possession des corps, pour que les femmes prennent conscience de leur liberté, de leurs droits, et elle va disparaître, elle va être arrêtée, elle va être torturée. Et on le sait maintenant, depuis très très peu de temps, elle a mis fin à ses jours à Fresnes. Sa fille a retrouvé des documents qui attestent cette volonté de mettre fin à ses jours plutôt que de vivre dans le mensonge ou de renier ses idéaux.
C'est en l'occurrence effectivement celle pour laquelle la partie biographique est la plus importante dans la série. On vous revenait sur son enfance, justement, sur cet environnement. On voit bien effectivement le contraste entre cet environnement très très bourgeois et un engagement tardif absolument, absolument remarquable. J'aimerais qu'on vienne du coup à la dernière donc de ces résistantes. Il s'agit de Mila Racine, puisque le sauvetage des enfants, bien sûr, était une part importante de la résistance des femmes.
Oui, alors vous voyez que crescendo, à travers l'histoire de ces femmes, on vient à s'intéresser à l'histoire de Mila Racine. Mila Racine, j'ai une dette envers le Mémorial de la Shoah, mais bien avant, avec le Centre de la documentation juive contemporaine. Âgée d'une vingtaine d'années, un peu plus, il y a fort longtemps, j'allais questionner la judéité comme beaucoup d'autres personnes de cette génération ou de la génération antérieure, et j'ai pu rencontrer Sarah Halperin, qui était la documentaliste ou l'archiviste de ce Centre de la documentation juive contemporaine, qui nous a apporté beaucoup à nous qui étions en quête, puisque les grands-parents ne nous avaient pas parlé. Et les parents ne nous parlaient pas non plus de ce qui s'était passé pendant la Shoah. Donc cette quête, on allait la trouver là où on pouvait. Et je dois le dire, le Centre de la documentation juive contemporaine m'a beaucoup apporté. Sarah Halperin, lorsqu'on lui demandait quels étaient les sujets sur lesquels on pouvait travailler en maîtrise, avait pris souvent la liberté de distribuer des sujets. Alors elle n'allait pas regarder s'il y avait des archives derrière, si on pouvait vraiment, vraiment travailler, mais elle avait des sujets qui lui tenaient particulièrement à cœur. Et lorsque je suis allée la voir pour lui demander un sujet, si elle avait une idée, elle m'a dit « oui, oui, je sais, il faut absolument travailler sur Mila Racine ». Voilà, alors c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai travaillé quelques semaines avant de m'apercevoir qu'une autre étudiante avait été sollicitée également Sarah Halperin, et que Sarah lui avait distribué un autre sujet qui était l'étude de la biographie de Marianne Cohn. Et Magali Ktorza, voilà, que je salue si elle nous écoute, eh bien, a commencé à travailler sur ce sujet. Et les biographies étant assez similaires, c'est devenu très très vite inconfortable, puisque nous étions toutes les deux en train de travailler sur les mêmes archives, et très vite je me suis aperçue que si le travail était fait pour Marianne Cohn, il aurait pu être difficilement renouvelé pour Mila Racine. Donc j'ai dû arrêter ce sujet, mais j'ai toujours pensé à Mila Racine. J'ai toujours été tout à fait touchée par son action, on va le rappeler. C'est une jeune fille qui vient de Russie, elle est juive, elle fait le choix de la France, elle le fait dans toute son intégrité, en adoptant le patronyme de Racine, et elle va garder bien évidemment très présent son attachement à la religion, puisqu'elle va être partie prenante des jeunesses sionistes. À ce titre, elle fait partie d'un réseau de sauvetage des enfants, et il s'agit de convoyer les enfants des zones proches des frontières suisses, et d'essayer de sauver le plus possible, passer la rafle du Veldiv, lorsque les enfants vont être recherchés et vont être arrêtés, eh bien, il s'agit d'en sauver le plus possible. Voilà, autour de 235, son action est absolument fabuleuse. Et au cours d'un convoi particulièrement difficile, où un couple âgé va ralentir la marche, où un bébé a pu éveiller les soupçons des gardes, eh bien, elle va être arrêtée. Elle est arrêtée, elle est conduite à la prison du Pax à Annemasse, et là, on lui propose de la libérer. Elle va refuser, elle souhaite rester auprès des enfants, elle va taire son identité juive, ce qui fait qu'elle sera envoyée plutôt vers Compiègne, que de Compiègne, elle sera envoyée à Ravensbrück. À Ravensbrück, j'ai pu trouver des témoignages, puisque les archives soit ont été ouvertes plus largement, soit ont bénéficié d'inventaires plus larges. Donc j'ai pu trouver 3 témoignages qui vont nous relater l'action de Mila à Ravensbrück. Elle a monté une chorale auprès des jeunes. Et je la retrouve toujours fidèle dans son action, dans son combat. Enfin, c'est vraiment une personnalité que je souhaitais mettre aussi à disposition d'un jeune public. Et puis, Mila Racine va se porter volontaire lors d'un commando pour aller déblayer des rails, et elle va mourir sous les bombardements alliés en avril 1945, ironie de l'histoire. Voilà, donc c'est vrai qu'on termine avec cette série. Terminer avec cette série, c'est aussi voilà, l'apogée de ce que je voulais faire, mais là où j'étais vraiment très très heureuse, c'est que le mémorial nous a vraiment suivis, et Sophie Nagiscard, que j'avais été voir il y a quelques temps, m'avait toujours proposé de tirer les ficelles de cette bande dessinée et d'en tirer une exposition avec des documents qu'elle pouvait mettre en relation avec la bande dessinée. Donc on voit que ça marche très très bien, puisqu'il y a cette exposition présentée au mémorial, qui a été inaugurée le 8 mars 2015. Alors des planches originales sont présentées, et en regard, vous avez les documents qui soit ont aidé les illustrateurs à dessiner, soit ont été trouvés par à la fois Sophie Nagiscard, mais également 2 personnes de ses équipes qui ont fait un travail absolument fabuleux. Voilà, et je tiens vraiment à remercier toute l'équipe de Sophie Nagiscard du très très beau travail qui a été fait.
Alors, il faut le dire, en l'occurrence, l'exposition porte bien au-delà de ces 4 femmes. Oui. C'est vraiment un hommage beaucoup plus large rendu aux femmes dans la résistance. Parmi les documents, il y a notamment des exemples de tracts qui sont particulièrement destinés aux femmes, notamment. Et en l'occurrence, sur quelle base, en tout cas, de quelle manière ils vont susciter l'engagement de ces femmes?
Oui, l'engagement de ces femmes, il se fait même, j'ai envie de dire, assez naturellement. Hein. C'est impressionnant de voir.
Selon les milieux, selon les âges, est-ce qu'on peut faire une sorte de portrait de...
Je pense que... Alors, je ne suis pas une spécialiste des femmes en résistance. Ça, c'est très important de le dire. D'ailleurs, on en a cherché, il y en a peu. Je pense à des grandes historiennes comme Rita Talman, qui était véritablement l'historienne des femmes en résistance. Est-ce qu'une typologie peut-être faite, très certainement. Maintenant, je ne suis pas la bonne personne pour répondre. Ce que moi m'intéressait, c'est le message que je voulais faire passer à travers la bande dessinée, c'était de donner à lire aux jeunes des actions qui avaient été menées. Certaines étaient issues d'un long engagement, effectivement, comme vous le dites, mais d'autres ont pu être faites sur très naturellement, très spontanément. Vous savez, c'est un petit peu comme les personnes qui vont refuser la médaille des justes et qui ne comprennent pas et qui disent tout simplement « Écoutez, moi j'ai fait ce que je devais faire. Voilà, je ne me suis pas posé de questions. Il fallait ouvrir ma porte, je l'ai fait. Il fallait cacher cette personne, je l'ai fait. » Et voilà. Donc je pense qu'il y a aussi cette particularité, cette générosité. Elle existe chez les hommes, elle existe chez les femmes, mais il y a voilà, tout un mouvement également de à la fois très spontanés, et puis à côté des mouvements qui sont très organisés. Je pense à Bertie Albrecht, qui va aller recruter dans les milieux où elle travaille, qui va essayer effectivement d'inciter, d'avoir des nouvelles recrues. Oui, mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment poser la question à Sophie Nagescard et à son équipe pour voir comment elles ont trouvé. Je sais que Philippe Boucara a aussi travaillé sur ces questions, et donc la typologie de ces femmes en résistance doit être faite auprès de ces historiens.
Et sur justement la nature des activités, on sait, donc on en a parlé évidemment, le sauvetage, mais il y a cette dimension idéologique, on va dire, par exemple avec Sophie Scholl, hein, qui va véritablement, l'idée c'est de réveiller les consciences des Allemands. Bertie Albrecht, donc au sein de Combat, on a vraiment là aussi un panel très, très différent d'action, je veux dire, au sein de la résistance.
Absolument, absolument. Il y a toutes sortes de formes de résistance qui peuvent aller de trouver des tickets de rationnement pour pouvoir nourrir des personnes, des familles, en allant jusqu'à ce que moi je trouve très beau, le sauvetage des enfants. Mmh. Le sauvetage des enfants est pour moi, s'il y avait une échelle dans les actions, je trouve qu'elle est doublement symbolique. C'est une volonté de continuer les générations. On est là face à la solution finale. Et donc, à ce titre, s'occuper des jeunes, essayer de les envoyer dans un pays où ils vont trouver refuge. Voilà. Et Mila Racine le fait au péril de sa vie et donne sa vie. Il y a vraiment le don de soi.
Voilà, c'est ça
aussi qui est tout à fait, qui va au bout des choses.
En l'occurrence, il y a l'exposition montre justement, au-delà de cette activité de résistance, le destin de ces femmes après leur arrestation, donc quand elles vont être, les conditions de détention dans les prisons de Fresnes ou de Montluc, et puis la déportation qui va concerner aussi un nombre très important de ces femmes.
Absolument. Absolument.
Ça, c'était important. Donc, c'est de ne pas axer uniquement sur l'action même de la résistance.
Oui, oui, je pense qu'on est là dans une action qui fait prendre des risques de vie humaine, et qui, alors que les hommes peuvent être au combat, les femmes vont encourir les mêmes risques. Et donc, voilà, je pense qu'il y a... face à ce qu'on a pu restituer de leur histoire, il y avait une part d'oubli. Alors, je ne dis pas que nous comblons la lacune historiographique, mais je dis, ça serait très présomptueux, mais je dis que ces modèles, que ces femmes en l'occurrence, doivent absolument être mises à portée du jeune public comme du moins jeune, et qu'on doit se rappeler. Vous aviez Lucie Aubrac qui disait « résister se conjugue au présent » lorsqu'elle allait rencontrer les lycéens. Voilà, je pense qu'il faut rendre hommage à ces femmes, se rappeler leur haut fait de résistance, et essayer de continuer à honorer leur mémoire.
Juste en quelques mots, on sait quelle place les femmes ont eu au sein plus spécifiquement de la résistance juive.
Alors, au sein de la résistance juive, là encore, il y a comme une double peine, puisque la résistance juive, on en a parlé il y a peu de temps également. Donc, vous voyez qu'on surajoute le problème du manque et de la lacune historiographique des femmes. On va rajouter encore un niveau qui est de parler de cette résistance spécifiquement juive, de cette résistance armée juive aussi, voilà. Donc là encore, je vais m'éclipser, mais je ne suis pas la spécialiste de la résistance juive, même si j'ai pu lire de nombreux travaux à ce sujet. Mais ce qui m'importait, c'est de tordre le cou à ce qu'on peut appeler les idées reçues qui ont souvent été véhiculées, dans lesquelles on parlait de la volonté, enfin de l'absence de réaction des Juifs qui ont pu être envoyés à l'abattoir comme des moutons. Donc il s'agissait de bien montrer qu'il y avait une vraie résistance de ce côté-là.
Je vous remercie beaucoup, Emmanuel Pelac. Je rappelle donc la sortie des 4 albums, et en l'occurrence du dernier album, donc consacré à Mila Racine, chez Casterman. Et bien sûr, l'exposition « Femmes en résistance » présentée au Mémorial de la Shoah jusqu'au 30 septembre à Paris, ainsi qu'un programme de rencontres et de conférences autour de ce thème. C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.